Chers amis auditeurs, nous vous invitons ce soir à écouter Marie-Christine Monnoyer, économiste et enseignante à l'Institut catholique de Toulouse. Dans le cadre de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, qui avait pour thème cette année « La vérité vous rendra libre », elle abordait cette question « Comment s'informer et débattre en démocratie ?»
Comment on va pouvoir débattre en fonction de la façon dont on est informé ? C'est pour ça que j'ai appelé cette petite causerie « S'informer et débattre en démocratie ». Bien entendu, nous sommes le 1er juillet 2025 et donc j'ai en tête, et vous aussi, la façon dont on s'informe et dont on peut débattre aujourd'hui. Et donc on ne va pas remonter au calende grec, même si à certains moments on remontera au calende grec. Alors, il est certainement une évidence pour chacun d'entre nous que dans un pays démocratique, s'informer, ça fait partie des activités du citoyen. Si vous voulez participer à la vie de la cité, il faut être informé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que s'informer ? Dès que je pose cette question, ça veut immédiatement, on se dit, à quelle source vais-je aller m'informer ? Comment je vais construire une confiance par rapport aux sources qui s'offrent à moi ? Et j'ai besoin de cette confiance, parce que si je n'ai pas confiance dans l'information que je reçois, comment puis-je la proposer dans un débat ? Ce n'est pas possible. Donc il faut que j'ai confiance, et si on arrive à construire une confiance avec certaines sources d'information, est-ce que cela va développer mon esprit critique ? Est-ce que je vais ainsi participer à la construction de la démocratie ? Est-ce que je peux aider les plus jeunes qui n'ont pas connu les modes d'information précédents à maîtriser la pratique du débat ? Mais c'est de cela que je voudrais vous parler et je vais le construire. Vous savez, moi, je suis un prof de base, donc je fais des plans avec... Je suis professeur en sciences de gestion, alors j'ai l'habitude de faire des plans en trois parties. Ma tête est programmée pour faire des plans en trois parties. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand j'en fais que deux, j'ai toujours l'impression qu'il en manque un bout. Alors, je vais vous proposer trois plans, trois idées. On va d'abord réfléchir à ce qu'est le besoin informationnel et pourquoi, aujourd'hui, on ressent, mais au sens physique, un besoin informationnel. Dans un deuxième temps, je voudrais vous expliquer, parce que ça s'explique, la différence entre l'information et la connaissance, parce que ce n'est pas la même chose. Et donc, une fois qu'on a compris comment se noue ce lien entre l'information et la connaissance, à ce moment-là, la confiance peut naître pour débattre. Et je me suis permis d'appeler ma troisième partie « Réveiller le citoyen ». Donc, si vous voulez bien, on va travailler ainsi. Et alors, il faut passer à la deuxième diapo. Alors, je vais vous faire un aveu informationnel. Les dessins qui sont sur mes slides, je les ai faits avec une intelligence artificielle. Le texte, les idées, c'est moi. Mais comme je ne sais pas dessiner, je m'appuie sur une intelligence artificielle pour faire des petits dessins, comme celui-là. Et je les trouve intéressants. Parce que vous voyez, dans ce petit dessin, il représente ce que je voulais dire. J'ai dit à l'intelligence artificielle, « Nos vies se sont ouvertes sur le monde. » Aujourd'hui, en 2025, on ne vit pas du tout de la même façon qu'on vivait quand je suis née, au milieu du XXe siècle, et les liens qui existaient entre, au sein des villes, au sein des villages, au sein des pays, étaient liés à des traditions qu'ici, on va marquer ancestrales, parce qu'on bougeait beaucoup moins, il y a 100 ans, qu'on ne bouge aujourd'hui. Et puis, le développement de la technologie a fait que nous avons un accès beaucoup plus large, aussi bien au monde, aux personnes, parce que les transports se sont élargis d'une façon extraordinaire, et qu'avec le numérique, nous avons accès à des idées, à des informations, à des images, à des musiques qui sont très différentes de ce qu'il est, de ce à quoi on avait accès il y a même 50 ans. Dans ces conditions, tout ceci a permis d'augmenter les échanges. Et avec cette augmentation des échanges, eh bien, on a aussi augmenté des conflits potentiels. On a augmenté des conflits potentiels parce que la rencontre avec des idées différentes, des traditions différentes, des religions différentes, peut conduire à des antagonismes parfois violents. Donc au fond, nos vies se sont ouvertes sur le monde et nous changeons de diapositive, nous changeons de façon de vivre parce que le monde s'est ouvert. Alors, vous voyez que mon image, là encore, qui vient de l'intelligence artificielle, ce que je voulais lui faire dire, c'est que quand on est en contact avec d'autres civilisations, on devient curieux. On regarde et ça aiguise considérablement notre curiosité. Et donc, on va chercher de l'information parce qu'on veut savoir, on veut comprendre. On veut savoir qui est, quelle religion c'était, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de la même façon, pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas de la même façon, etc. Cette curiosité, elle est naturelle pour la plupart des gens. Mais elle a un inconvénient. C'est qu'en allant chercher de l'information un peu partout, on appelle, et vous avez certainement déjà entendu ce mot, on est confronté à de la surinformation. On en a beaucoup. Et alors, selon les personnes, on va avoir un peu peur. Et au fond, celui qui ne nous ressemble pas, a priori, il nous inquiète. Et cette multiplicité d'informations auxquelles nous pouvons avoir accès, elle entraîne une crise de confiance. Et vous avez certainement vu. Parce qu'on a vécu tous la Covid, parce qu'on a vécu l'élection de M. Trump, on vit la guerre en Ukraine, etc. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que ce qu'il nous raconte, c'est ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vrai? Et donc, vous voyez que, parce que le monde s'est ouvert, parce que l'on a accès à une multiplicité d'informations, on n'est pas forcément plus tranquille pour cela. Et cette inquiétude-là, eh bien, il va falloir la vivre. Alors, nouvelle diapositive, on va chercher des réponses aux questions que nous nous posons. Seulement, des questions, on s'en pose 50 000. La première que je vous propose, étant donné la situation météorologique, celle-là, elle n'est pas très compliquée. Elle n'est pas très compliquée parce qu'on va sur Météo France et on sait que demain il fera aussi chaud qu'aujourd'hui ou pratiquement. Par contre, puisqu'on est en période d'examen, si vous voulez avoir les résultats du baccalauréat au niveau, par exemple, de la Haute-Garonne ou de l'Occitanie, vous allez trouver de l'info dans la presse locale sur le site du rectorat. Et on va vous dire qu'il y a 90% des jeunes qui auront été reçus au baccalauréat. Ce chiffre va peut-être vous un peu étonner parce que quand vous, pour ceux qui sont les plus âgés, vous avez passé votre baccalauréat, ce n'était pas 90%. Hein. Sinon, vous auriez eu un peu moins peur des résultats de votre propre baccalauréat. Et ça, vous n'allez pas le trouver sur le site du rectorat. Non. Il va falloir chercher ailleurs, chercher plus profondément. Donc ça veut dire, on voit déjà, qu'il y a des situations dans lesquelles il est facile de s'informer, parce que ce sont ce que j'appelle des besoins factuels, et que dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez voter aux prochaines élections municipales ou aux prochaines élections nationales, Vous n'allez pas trouver toute l'info sur le site de Météo France. Il va falloir sans doute que vous alliez accepter d'aller dans telle ou telle manifestation d'information de la part des candidats qui se présenteront aussi bien à la mairie qu'au niveau national. Donc vous voyez qu'il y a des grandes différences entre des besoins factuels qui sont faciles à satisfaire et puis des besoins contextuels qui, eux, sont beaucoup plus compliqués. Alors, ça veut dire que nous sommes entrés dans la société de l'information. J'ai mis ce mot entre guillemets parce que la société de l'information, c'est un mot qui date des années 60. Il est né sous la plume de deux professeurs, le professeur Maclup, le professeur Porat, qui ont parlé de société de l'information. Et vous voyez sur le nouveau graphique que je vous présente que cette société de l'information, elle s'appuie sur des médias, sur la presse, sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, sur Internet et bien entendu aussi sur l'éducation que nous avons reçue. C'est-à-dire que nous nous informons via tous ces éléments-là, les médias, la presse, le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et c'est parfaitement exact puisque 95% des Français sont reliés à Internet. 90% des Français s'informent une fois par jour. 73% des jeunes entre 16 et 25 ans utilisent Instagram, vous connaissez tous Instagram, pour s'informer et se divertir. Et les jeunes passent entre 3 et 5 heures par jour, pour les 10, les 16-25 ans, à scroller sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 3 à 5 heures. C'est beaucoup. Donc nous sommes entrés dans une société dans laquelle l'information est dans notre quotidien. J'ai bien dit, l'information est dans notre quotidien. Alors qu'est-ce qu'on va faire de toute cette information? Je voudrais vous montrer un petit graphique qui est sorti il y a le 17 juin, donc ma source n'est pas très âgée. Sur ce graphique, vous voyez apparaître l'importance prise par les différentes sources de news, puisque c'est un document en anglais, mais ce sont les chiffres pour la France que je vous présente, dans les 12 dernières années. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est la différence entre le poids de la télévision, le poids des réseaux sociaux et le poids de la presse. Vous voyez que un grand nombre de ces médias ont diminué, alors que celui des réseaux sociaux a largement augmenté. Donc ça veut dire que nous avons changé nos façons de nous informer. Nous avons utilisé cette société de l'information et la multiplicité des sources que je vous présentais il y a quelques minutes pour changer nos façons de nous informer, mais cela se traduit par des problèmes vis-à-vis de la confiance. Vous voyez que l'enquête que j'utilise met en évidence la faiblesse de la confiance accordée par les gens qui ont répondu à cette enquête. Ils étaient 2000 pour la France, donc c'est une statistique tout à fait solide. 29% des répondants affirment faire confiance à l'information donnée. 29%, mais c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une défiance dans un grand nombre vis-à-vis d'un grand nombre de sources d'information. Alors pas toutes. Vous voyez que c'est la radio qui bénéficie du taux maximum de confiance. Et à contrario, eh bien, certains réseaux sociaux n'obtiennent que très très peu de confiance. Et puis, il y a des sources qui disparaissent. Et si j'ai choisi de citer le fameux mensuel Le Débat, c'est parce que c'était une grande source d'information. Et en août 2020, son directeur, dont on a parlé très récemment, Pierre Nora, parce qu'il est mort, Pierre Nora a décidé de fermer le journal. Pourquoi Eh bien, entre autres, parce que l'équipe qui animait ce journal s'est dit, on n'arrive plus à débattre. On n'arrive plus à avoir suffisamment confiance les uns par rapport aux autres dans nos sources d'information pour que l'on continue. Et puis des fois, ce sont des journaux qui s'auto-censurent et qui disent, je ne vais plus le faire, parce que le débat n'est pas possible. Lorsque le New York Times, c'était en 2019, mais vous comprenez très vite pourquoi, supprime les caricatures de son édition internationale, c'est parce que de temps en temps, les caricatures conduisent à des attentats. Et donc, plutôt que de prendre ce risque, on l'enlève. Or, la caricature a toujours été un moyen d'échange démocratique. Souvenez-vous, vous l'avez même vu dans vos livres d'histoire pendant la Révolution française. Même vis-à-vis du roi, même vis-à-vis de Robespierre ou de Marat. Eh bien, en 2019, on dit « les caricatures, j'arrête ». Il me semble que c'est un signe de la difficulté que nous avons à débattre. La difficulté que nous avons à accepter le regard d'un autre, l'information qui vient d'un autre. Je vous ai dit que l'ouverture avait accentué le besoin d'information et j'ai insisté il y a quelques minutes dans le fait que nous avions désormais une information qui était de plus en plus numérisée. Ça a beaucoup d'avantages. Mais il faut comprendre les conséquences de la numérisation sur la qualité des sources d'information. Alors, je vais vous l'expliquer, c'est un peu compliqué. Du moins, c'est pas évident. C'est pas compliqué, mais c'est pas évident. Vous avez tous l'habitude de lire de la presse. Et donc, page après page, vous avancez dans la lecture d'un journal, que vous alliez dans ce sens du premier au dernier. Moi, je commence toujours par la dernière page dans le journal que je lis tous les jours. Donc, mais de toute façon, vous savez où vous allez trouver certains types d'informations. Si vous voulez savoir ce qui va se présenter sur Antenne 2 ou TF1 ce soir, vous n'allez pas aller sur la première page, vous allez aller sur la page X de votre journal. En revanche, si vous ne voulez que les gros titres, vous commencez par la première page. C'est ce que l'on appelle la verticalisation de la presse écrite. Et jamais vous n'aurez en première page le programme télé. Jamais. La presse est construite comme ça. Dans les sites internet sur lesquels nous allons nous renseigner, on parle d'horizontalisation. C'est-à-dire que vous allez chercher une info sur un site, et puis on va vous proposer la suite, et puis la suite, et puis la suite, et puis la suite de ce que vous avez recherché. Vous n'allez pas tomber, vous pouvez toujours tomber par hasard, mais en fait, on vous prend par la main et on vous emmène là où vous avez commencé à aller. Mais vous n'irez peut-être jamais voir les nouvelles internationales, ou vous n'irez peut-être jamais voir des éléments qui sont différents de ce que vous avez souhaité. Alors, c'est compliqué parce que, étant donné que le nombre de personnes qui lisent la presse a diminué, eh bien, la façon de s'informer passe par cette horizontalisation des sites qui, vous le voyez, est moins ouvrante que ne l'était la presse. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu touchy, ce truc-là. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Surtout si on est désormais tout le temps sur la presse numérique ou des documents numérisés. Et quand on me dit « mais pourquoi tu aimes tant la presse papier ?» ben je dis « parce que je veux choisir ou au fil de l'eau, dans le journal, ce que j'ai envie de lire et je me laisse interpeller par ce qui est au fil des pages dans le journal. Et je me laisse interpeller. Vous vous doutez bien que je ne suis pas forcément passionnée par la musique totalement actuelle qu'écoutent mes petits-enfants. Et pourtant, je vais quand même regarder parce que je veux savoir ce qu'écoutent mes petits-enfants. Et donc, je vais le faire page après page. Mais je ne vais pas aller sur un site web pour savoir... Non, je préfère le lire. Mais ça, c'est parce que j'ai été un peu formatée sur cette façon-là de s'informer. Or, pour la jeune génération, c'est tout à fait logique. Et je suis ravie d'aller m'informer sur Internet. Mais pas que. Et donc, ce qui est compliqué avec l'horizontalisation des sites, c'est qu'au fond, il n'y a plus cette hiérarchie que nous proposait l'information écrite. Et cette hiérarchie, cette absence de hiérarchie, si c'est le développement des sites Internet présente un gros avantage parce que ça va développer la culture participative, parce qu'on va pouvoir échanger facilement, etc. Et donc, c'est un avantage considérable. Il n'empêche que parce que c'est verticalisé, c'est horizontalisé, excusez-moi, parce que vous allez vous apercevoir, et vous vous en êtes tous aperçus, que si vous posez une question sur Google, etc., le lendemain, on va vous faire une proposition sur ce que vous aviez demandé la veille, parce que la mémoire de l'ordinateur aura enregistré ce que vous aviez posé comme question. Et ça va revenir en permanence. Et vous allez aller regarder. Et donc, en fait, vous allez être amené à toujours vous intéresser au même sujet. Et si vous n'en êtes pas conscient, ce qui est assez logique pour un tout jeune homme ou une toute jeune fille, eh bien, vous allez croire que vous êtes informé. En fait, vous êtes informé sur certains sujets et pas du tout sur tous. Alors, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes sur le plan sociopolitique. Les conséquences sont extrêmement lourdes parce que on s'aperçoit, et je suis sûre que vous vous en êtes déjà aperçu, que chez les plus jeunes, au niveau français, mais c'est aussi vrai au niveau européen et c'est aussi vrai au niveau nord-américain, il y a une crispation sur le concept d'identité. Cette crispation, elle se traduit par une augmentation de la place donnée au sujet identitaire sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet. Ce point-là est extrêmement lourd parce que cela ne favorise pas les échanges entre. On a une tendance toute naturelle à se rapprocher de ceux qui vous ressemblent. Parce que c'est plus facile de discuter avec ceux qui vous ressemblent ou d'échanger avec ceux qui vous ressemblent. Or, si on ne contacte que des sites ou des réseaux qui parlent de ce que vous êtes, un blanc un peu macho, une fille un petit peu orientée vers uniquement sur certains sujets, quelqu'un de très viriliste, etc., etc. Quelqu'un qui se veut profondément ancré dans sa vie religieuse et qui a une petite tendance à considérer que les autres religions n'ont aucun intérêt, voire devraient disparaître, eh bien, vous avez cette crispation qui s'instaure. Ce qui va assez loin, c'est que parce que la génération plus âgée a vécu des moments difficiles sur le plan identitaire, elle en est parfois revenue. Cela se traduit aussi par des fractures intergénérationnelles. Et quand on dit les vieux votent comme ci, les jeunes votent comme ça, qu'est-ce que c'est si ce n'est de la fracture intergénérationnelle? Ce qui est gênant, c'est que ça ne facilite pas le débat démocratique et l'échange d'idées. Ça ne facilite pas, d'autant plus que vous avez tous vu, et comme il n'y a pas de très jeunes dans cette salle, vous avez sans doute été agacés par le fait de voir des jeunes qui sont, mais il y a aussi des adultes qui font ça, hein, qui sont constamment sur leur téléphone. Et comme me le disait un de mes petits-fils il y a quelques jours, « Mais mamie, j'ai une information qui m'arrive sur mon téléphone. Ben, » Je lui dis ben, « Elle t'arrive, c'est pas grave, tu la liras après. » Mais non, il faut que je la lise. Il faut que tu la lises. Pourquoi ? Fear of missing out. Ce que dans le langage d'aujourd'hui, on appelle le FOMO. Est-ce que si je ne l'ai pas été regardé, je suis hors-jeu, je suis has-been, je suis out? Vous allez chercher ce que vous voulez. Et cette crainte-là, dès que votre téléphone dit « Vous avez sur Instagram, j'ai un compte Instagram », le nombre de petits messages Instagram qui m'arrivent sur mon téléphone n'a rien à voir avec celui de mon petit-fils. Mais il est déjà extrêmement important. Mais tu n'as pas vu ? Je verrai. La peur de manquer quelque chose. Donc vous voyez, ce qui est très impressionnant, c'est que cette numérisation de l'information qui nous apporte nous facilite considérablement l'accès à l'information, la recherche d'information, la possibilité de répondre à notre curiosité. Tout ça, c'est grâce à la numérisation. Mais à contrario, la numérisation, elle a des conséquences dont peu de personnes sont conscientes. Et ce qui est problématique, c'est que cette absence de prise de conscience ne va pas du tout favoriser les échanges d'idées, alors qu'on aurait pu penser qu'avec de multiples sources d'informations, une information s'en coûte. Moi, ça me coûte d'acheter mon journal, alors que si je vais chercher sur les réseaux sociaux, etc., ça ne me coûte rien. Donc cette information gracieuse, riche, variée, etc., en fait, elle ne favorise pas l'échange d'idées. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir comprendre comment dépasser ces problèmes-là? Nous entrons dans le deuxième point de ce que je vais vous raconter. Et j'ai appelé ça de l'information à la connaissance. Alors, regardez mon petit dessin qui vient d'une image d'intelligence artificielle. Vous voyez, il y a un cercle. Il y a un cercle, et vous pouvez le prendre par le bout que vous voulez, mais le plus important, c'est de commencer par le début. L'accès à l'information. Ok, on a vu tout à l'heure que l'accès à l'information était extrêmement facile. Donc, un accès à l'information. À partir de cet accès à l'information, je vais pouvoir et donc acquérir un certain nombre de connaissances. Si je vais sur certains sites web, prenons des choses qui ne sont pas difficiles à analyser. Je suis passionnée par les animaux et donc je vais aller sur des sites qui me parlent d'animaux. Et grâce à ce site, je vais augmenter mes connaissances sur les animaux. À partir de cet accès à la connaissance, je vais pouvoir être capable d'analyser de nouvelles informations. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'irai sur un site, je m'intéresse aux chats, eh bien, j'aurai des connaissances sur les chats qui me permettront de dire si sur ce site, ce qui est dit sur les chats, c'est pareil ou c'est pas pareil, c'est d'accord ou c'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a une différence? Cette différence, eh bien, je vais l'analyser, je vais la compléter en allant de plus en plus chercher de l'information. Et vous voyez que ce cycle qui passe de l'information à la connaissance, à l'analyse des informations, va construire ma connaissance. Et à partir de cette construction de ma connaissance, je peux débattre. Parce que je ne suis plus en fragilité. Est-ce que je fais confiance ou est-ce que je ne fais pas confiance ? Je ne suis plus limité. J'ai entendu, j'ai lu que. Ben, tu lis et tu relis. Tu entends et tu réécoutes. Et c'est ainsi que se construit la connaissance. Alors, cette analyse, elle est le fruit du travail des chercheurs qui ont essayé de comprendre comment on passait de l'un à l'autre. Alors, pour le prof de base que je suis, ceci est extrêmement important et parlant. Parce que, vous vous souvenez, on vous l'a dit, pour savoir quelque chose, il faut l'avoir appris 7 fois et oublié 6 fois. On disait ça quand j'étais gamine. C'est-à-dire que la connaissance suppose qu'on ait trituré l'information, qu'on ait trituré les données. Si je vous dis qu'il fait 37 degrés aujourd'hui, bon, il fait 37. What else, comme on dit dans certaines pubs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça dépend. Si vous avez toujours vécu dans un pays où il fait 37 degrés, ben c'est normal. Si vous vivez d'habitude dans un pays où il fait 23, c'est pas normal. Et puis, si vous avez beaucoup voyagé, ça vous rappelle des choses. Donc en fait, 37 degrés, c'est une data, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est une info, mais ça n'est pas une connaissance. Et donc il faut la mélanger, la transformer. Vous voyez que cette idée-là, eh bien, elle est fondamentale parce que nous avons la chance de vivre dans un monde dans lequel nous avons la possibilité, tout au long de notre vie, d'élargir nos connaissances. Je dis que nous avons la chance de, parce que le nombre de ceux qui pouvaient consacrer une partie de leur temps, tout au long de leur vie, à enrichir leurs connaissances était en pourcentage faible. Quand vous aviez travaillé toute la journée dans les champs, prendre un bouquin pour savoir, etc., c'était difficile. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sous la chaleur, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent et que c'est difficile, mais il n'empêche que nous ne travaillons plus que 35 heures par semaine, que nous avons 5 semaines de congés payés, etc., etc. Et que donc, nous avons la possibilité d'avoir du temps pour enrichir nos connaissances. Et nous avons la possibilité, grâce à l'Internet, grâce à l'informatique, d'avoir accès à l'information et à la connaissance. Et donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité, tout au long de notre vie, de bénéficier de cela. Faut-il encore vouloir le faire ? Faut-il encore vouloir le faire ? Parce que cela va quand même nous demander de nous bagarrer avec certaines difficultés vis-à-vis de la qualité de l'information que nous allons chercher. J'aime bien cette phrase d'Edgar Morin. Toute connaissance est navigation dans un océan d'incertitude. Je trouve que c'est une belle phrase. Parce que des fausses informations, il y en a toujours eu, mais si nous multiplions les sources d'informations, nous allons pouvoir faire le tri entre les fake news et les vraies news, même si celles-ci se propagent plus vite dans un monde qui est dans un monde numérique. Et donc ça veut dire que si nous le voulons, nous pouvons réviser nos connaissances, accentuer nos connaissances, enrichir nos connaissances, c'est possible. C'est possible et c'est accessible. Alors, Vous voyez que, au fond, c'est assez logique qu'il soit difficile de débattre. Parce que nous croulons sous l'information. Nous sommes sous l'angoisse de la qualité de l'information que nous avons reçue, ou nous acceptons parce que, voilà. Mais cela demande un effort important de notre part. Et donc, il n'est pas extraordinaire qu'il y ait des difficultés dans la pérennisation du débat et de l'échange d'idées. Alors, je vais sauter une diapositive parce que je la trouve un peu compliquée. On y reviendra tout à l'heure. Parce que je voudrais prendre un exemple, l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat. Je veux prendre cet exemple parce que je le trouve intéressant et je vais afficher ma conviction. Je trouve qu'il a été caricaturé. C'était la première convention citoyenne en France. Le concept n'existait pas vraiment. Et l'idée qui a germé, c'était, vous vous souvenez, c'est avec les gilets jaunes, etc. C'était un moment où on se disait, il faut faire quelque chose contre le réchauffement climatique. Mais nous n'avons pas tous la même position par rapport à cette question du climat, parce que les agriculteurs ont une position, parce que les transporteurs ont une position, parce que les architectes en ont une autre, etc., etc. Et donc, on sentait bien que pour prendre des décisions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il allait falloir trouver un gentleman agreement entre des gens très différents et que ce serait difficile. Donc on a réuni 150 personnes tirées au sort, des jeunes, des vieux, des sachants, des pas sachants, des agriculteurs, des intellos, etc., etc. Des femmes, des hommes, bien évidemment, même des très jeunes et même des très vieux. 150 personnes qui se sont réunies pendant 9 sessions entre octobre 2019 et juin 2020. Alors le président de la République avait une idée un peu dangereuse qui était de dire « on acceptera tout sans filtre ». Il ne faut jamais dire ça parce que c'est trop compliqué. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec des personnes aussi différentes, des sachants et des pas sachants, des gens qui avaient réfléchi sur le climat et des gens qui ne s'étaient jamais posé la question, ils sont arrivés à définir 149 propositions. Un par tête de pipe. Ces 140 propositions avaient pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Exercice démocratique inédit. L'année d'après, on a beaucoup, beaucoup parlé en disant « ça a servi à rien ». La démocratie, ça n'existe plus. Les 150 personnes qui se sont creusées la tête pour trouver des idées, on ne les a pas suivies. Eh bien, cette semaine, celle qui s'appelle Laurence Tubiana, qui était une des principales organisatrices de la fameuse COP de Paris, disait et écrivait « 70% des 149 propositions ont été transformés en textes de loi. » Et un rapport européen publié en avril 2025, c'est-à-dire avant-hier, a exploité tout ce travail-là. Et quand on regarde au niveau international les effets des 149 propositions, on voit qu'elles ont irrigué un très grand nombre de pays et un très grand nombre de décisions. Alors, je prends cet exemple parce que je le trouve très intéressant. Ça veut dire que 150 personnes très différentes, auxquelles on propose des informations, qui les travaillent, qui les analysent, réussissent à proposer des idées qui sont, pour 70% d'entre elles, appliquées 5 années plus tard dans les textes législatifs français. Ça veut dire que le débat, c'est possible. Bien sûr, on les a un peu cocoonnés, les 150 personnes. Ils ont eu droit à des tas d'explications, des gens très calés, des gens très différents, etc., qui leur ont beaucoup expliqué des tas de choses, et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Donc ça ne se fait pas tout seul, mais ça se fait. Ça se fait parce qu'aujourd'hui, l'information est possible, et parce que le passage de l'information à la connaissance est effectivement possible et peut donner lieu à des propositions de la part de Monsieur Tout-le-Monde. Vous comprenez pourquoi cet exemple-là, et comme en plus ce texte de Madame Tubiana date de la semaine dernière, je me suis dit que ça valait la peine de vous le rappeler et de le présenter. Alors, puisque c'est possible, est-ce que on peut aller plus loin et faciliter, via la formation, puisqu'on en a parlé avant, eh bien, améliorer la formation des jeunes pour que le débat puisse exister. Alors, vous allez dire que je suis une fan d'Edgar Morin, mais il y a beaucoup de fans d'Edgar Morin. Il a mis au point ce qu'il appelle le concept de connaissance pertinente. Tous ceux qui ont un peu lu Edgar Morin connaissent ça, c'est classique. Ce que je trouve de très intéressant dans ce concept, ce sont les quatre idées que vous avez ici. Quand on cherche une information, il faut toujours la placer dans son contexte. Le contexte, le contexte, le contexte. Les 37 degrés, je vous y disais tout à l'heure. Ça dépend dans quel pays vous êtes, à quel moment vous êtes, etc. Il y a un contexte. Deuxième point fondamental, le global. On ne peut jamais sortir une info, un fait, une connaissance d'un ensemble, tout simplement parce qu'il y a de multiples dimensions, le multidimensionnel. Il y a tellement de variables qui expliquent une situation que si vous ne prenez qu'un angle de vue, vous n'allez pas aller loin. Tout simplement parce que tout est toujours extrêmement compliqué. Ne nions pas que les choses sont compliquées. Ne nions pas qu'il y a plusieurs variables possibles. Et il est nécessaire de travailler tout ça. Alors, cette idée de la connaissance pertinente, eh bien, en fait, certains l'ont toujours appliquée. Je vais commencer par l'image d'après, et puis je reviendrai après, juste avant l'arrière. J'aime bien ces deux images. Celle de gauche, celle qui est à Fanjeaux, c'est moi qui l'ai prise. Quand vous êtes dans le village de Fanjeaux, dans l'Aude, il y a cette sculpture. Et vous voyez, cette sculpture, elle représente une joute oratoire entre les cathares et les catholiques. Dans la région, tout le monde sait ce que sont les cathares, et entre les cathares et les catholiques, le débat n'était pas tout à fait évident. Ça finissait un peu en fumée. Sauf que, il y a des moments où les gens débattent. Et regardez cette image, même s'il y a un peu trop d'ombre et je ne suis pas une très bonne photographe, eh bien, vous voyez que les gens sont assis, ils sont dans une position de discussion. Quand vous regardez l'image d'à côté, ça je l'ai pris dans un journal, le mouvement Nuit Debout, je n'ai rien contre le mouvement Nuit Debout, mais regardez comment ça se passe. On n'est pas du tout dans la même position. Il y a des gens assis et un qui est l'orateur. Ce n'est pas un débat, c'est une harangue. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors revenons à la diapo précédente. Cette question de l'échange d'idées, elle a toujours été dans nos têtes. Socrate, vous avez tous entendu parler du débat socratique, hein, de cette question qui est dans le débat socratique. Socrate pose des questions. Il n'affirme pas des choses, il laisse les gens répondre. C'est la fameuse formation par réfléchissez, discutez, analysez, et vous allez trouver la solution. Et tout au long du monde, je vais un peu vite parce que je vois que le temps court, cette façon d'échanger, au temps médiévaux, on parle de disputatio. D'ailleurs, quand on parle des cathares, on parle de la disputatio. Et maintenant, on réinvente ce terme, on reprend ce terme de disputatio contemporaine parce que on cherche le compromis. Je crois qu'en ce moment, tout le monde cherche le compromis. Et le compromis, il naît de la disputatio. Il naît des informations transformées en connaissances qui peuvent conduire au débat. Et donc, ce besoin de disputatio, il est fondamental, il est nécessaire. Et donc, il faut absolument développer ce concept de connaissance pertinente de notre cher Edgar Morin pour aller vers la possibilité du débat. C'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile parce que, et les plus jeunes qui sont dans cette salle, mais aussi ceux qui ont enseigné, savent que dans les 25 dernières années, on a poussé à la spécialisation. Parce que les choses sont compliquées, on s'est de plus en plus spécialisé. Et moi qui suis prof dans une fac, on a créé des masters et des masters et des masters de plus en plus ciblés sur des questions compliquées, dans lesquelles les étudiants étaient hyper costauds, mais ne savaient plus discuter avec leurs voisins. Parce qu'ils étaient si costauds sur leur spécialisation que la possibilité de l'échange avait diminué. Et on est en train de s'en rendre compte, en particulier à cause du réchauffement climatique. Pourquoi ? Eh bien parce que pour qu'un philosophe puisse parler avec un spécialiste du climat, il faut vraiment qu'il soit très fort en philosophie. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de pont entre leurs deux disciplines. Et l'absence de pont entre les disciplines est liée à cette hyper-spécialisation. Et elle est compliquée parce que si on a spécialisé les étudiants, on a spécialisé les profs, forcément. Et donc, pour que les profs puissent enseigner autre chose que leur spécialité, c'est compliqué. Et on parle d'enseignement en silo. Et les étudiants sont forts dans une discipline et nuls dans l'autre. Quand je dis nul, c'est pas méchant, mais c'est vrai. Et donc, cette question du débat, elle est aussi liée au fait que de l'information à la connaissance, nos connaissances, si elles sont trop spécialisées, elles nous empêchent de discuter avec d'autres. Et est-ce qu'il est possible de transversaliser ? Est-ce qu'il est possible de transdisciplinariser ? C'est peut-être ça qu'il faut envisager. Est-ce que ces transdisciplinarités qui se traduiraient par une moindre spécialisation ou une entrée dans chacune des universités, dans chacune des facultés, dans chacune des écoles, par des mélanges, par des ponts qui permettraient d'éviter cette spécialisation. Certaines entreprises s'en sont rendues compte. Dans certaines grandes entreprises, et même dans certaines petites, il était d'usage de recruter toujours les mêmes profils. On prenait des ingénieurs dans telle école. On prenait des spécialistes des ressources humaines dans telle faculté. Et on ne mélangeait pas. Parce qu'on avait confiance dans telle école ou dans telle faculté. En fait, il faut varier les écoles. On s'est aperçu, excusez-moi de le dire, que quand on recrutait des femmes, ce n'était pas tout à fait pareil que quand on recrutait des hommes. Parce qu'on n'est pas tout à fait fait de la même façon et que notre sensibilité par rapport à certains problèmes n'est pas la même. Et on a découvert que même chez Airbus, c'était bien d'avoir des ingénieurs femmes. Ça n'a pas été évident au début. Et maintenant, on en a. Eh bien, petit à petit, on le découvre. Mais on le découvre par la force. Parce qu'en fait, un jour, on a des soucis. Ou tout simplement parce qu'un jour, on ne retrouve pas les hommes qu'on voulait recruter comme d'habitude. Cet apport de la transdisciplinarité, elle est, à mon avis, la voie vers le développement du débat. Mais chacun d'entre nous peut le faire. Parce qu'on a toute la vie. Parce que si on se met, quand on est littéraire, à lire quelques revues scientifiques, on ne regarde plus les problèmes du changement du climat de la même façon. Et quand on est spécialiste des sciences dures, comme on dit, et qu'on se met à lire de la psychologie, on ne réagit pas de la même façon. C'est ça, la transdisciplinarité. Alors, on peut commencer à l'école. Et tout à l'heure, en discutant, on évoquait le fait qu'on pouvait faire de la philo à la maternelle. Et oui. Eh bien, on peut en faire tout au long de sa vie et ainsi découvrir la merveille du débat. Merci.
Je voudrais bien que tu mettes